France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Alors, je suis Gérard Voulet, je suis violoniste, j'étais professeur au Conservatoire de Paris, je suis né en août 1938 et je suis le fils de Gaston Poulet qui était un chef d'orchestre bien connu.
Poulet, sur le devant de la scène, dans le champ de vision de la critique musicale, grâce à un enregistrement de la sonate pour violon seul de Béla Bartók, oui. C'était en 1988. Hein, cet enregistrement vous avait valu un grand prix de l'Académie Charles Cros, un diapason d'or, vous avez figuré parmi les disques de l'année de la musique.
Alors ça m'a fait plaisir, voyez.
Et comment vous êtes décidé à enregistrer cette sonate sur un petit label, Harmonic Records?
Parce que les autres ne me faisaient pas appel à moi, hein. c'est pas difficile. Hein. Si j'ai pris un petit label, c'est parce que simplement la personne qui présidait au destiné de cette marque Harmonic Records me l'a proposé. Et puis comme il fallait que je le fasse à ce moment-là, c'est bien tombé, voilà, et j'ai cette occasion. Ce qui est formidable dans le disque, c'est qu'au moins, il y a des choses qui restent, un petit peu comme une peinture. Un grand artiste, un peintre, bon, quand il a fini sa toile, 20 ans après, elle est toujours là. Tandis que quand on a joué un concerto de Brahms magnifiquement, qui n'a pas été enregistré, eh bien, personne, il ne reste rien. Alors le disque, et ça pour ça, c'est un petit peu comme une peinture.
Bon, il faut quand même préciser que cette sonate, c'est une sonate extrêmement difficile, terriblement difficile, qui avait été commandée par Yehudi Menuhin en 1943, qui a été très peu enregistrée, qui est redoutable dans sa technicité. Vous la jouiez depuis longtemps. Pour quelle raison cette sonate-là, vous avez décidé de l'enregistrer en 1988?
Oh, bah, cette sonate, je l'ai tellement aimée, je l'ai travaillée tellement, je l'ai jouée aussi beaucoup. Bon, j'ai forcément eu envie quand même qu'il en reste quelque chose. Si j'avais pas fait cet enregistrement, là, bon, je vous avoue, là, actuellement, je ne la joue pas et je ne la joue plus. Bon, s'il fallait que je la rejoue, il faudrait que je recommence encore un travail énorme. Je vous avoue que j'ai tellement de choses à faire que ça me semble un travail trop important pour moi maintenant.
Mais à la fin des années 80, c'était en pleine possession de vos moyens, oui. Je crois que vous l'avez même parfois joué, cette sonate pour violon seul de Bartók, en regard de la troisième partie d'Atbach, et puis en enchaînant ensuite avec plusieurs caprices de Paganini. Vous avez quand même un goût particulier pour...
La difficulté.
Oui.
Oui. Bah oui, c'est toujours, on se met en danger, on teste là où on en est. Alors quand on se casse la gueule... Eh bien, bon, on se dit, tiens, c'est pas encore mûr, ou alors j'en suis pas capable. Bon. Alors, ça, c'est moi qui fais mon analyse après. Et puis, quelquefois, j'insiste. Comme je suis un insistant, quelquefois, je reprends l'affaire. Et puis, je vais un petit peu plus loin. Et c'est comme ça que j'avance.
Thank you.
Vous aviez enregistré auparavant, je crois, en 1979, les 24
caprices de Paganini.
Oui. Et puis, bien plus tard, au milieu des années 90, vous avez enregistré les
sonates de Bach.
Les sonates et partitas de Bach.
Ça, j'en suis fier. Alors,
qui reste une référence dans les enregistrements.
Il y a certaines personnes, certains artistes qui vous disent « Oubliez cet enregistrement, j'ai tellement évolué maintenant que je ne veux même plus en entendre parler. » Pour cet enregistrement-là, je vous dis non. Celui-là, je suis heureux et fier de la faire écouter encore. Je vous avoue quelque chose là aujourd'hui.
Dites-moi.
C'est que cet enregistrement-là, je l'avais fait une première fois. Et j'ai refusé qu'il sorte, parce qu'il ne me convenait pas. Et Arion m'a dit, mais ça me coûte cher. Eh bien, j'ai dit, ça ne vous coûtera pas un sou de plus. Je prends tout à mon corps défendant. C'est moi qui refais l'enregistrement, et j'en assume la dépense.
C'était au milieu des années 90, vous aviez...
Oui. Voilà, 50, voilà, vous voyez que je vous fais un aveu, là, hein.
Qu'est-ce qui vous plaisait?
Je savais ça. Eh bien, je l'ai réenregistré de A jusqu'à Z.
Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le premier enregistrement?
Qu'est-ce qui me plaisait pas? C'était pas ce que je voulais. C'était ni le son, ni le tempo, ni les intentions, ni la respiration, ni l'inspiration. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais qu'il y ait. Et le montage ne me convenait pas, et la personne qui m'a enregistré non plus.
Et combien de temps vous avez laissé passer entre le premier et le deuxième enregistrement?
Un an à séparer. Et puis je ne regrette pas d'avoir fait ça, parce que...
Un an à tout retravailler, j'imagine.
Oui, à tout remettre à zéro, quoi. Enfin, pas à zéro, non, j'exagère. Mais enfin, il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai pas réussi, d'accord, la première fois... Mais j'ai su après la deuxième fois qu'il fallait pas faire ceci et cela. Donc ça m'a apporté une expérience. Je savais donc beaucoup mieux comment gérer mon effort. Et je savais ce qu'il fallait obtenir et j'avais écouté ce qui était mauvais. Et donc je voulais pas reproduire ça. Quand on fait un enregistrement des sonates de Bach, c'est un univers sidéral. Alors, pour cerner les efforts et pour obtenir ce que l'on veut dans chaque morceau de chaque sonate, c'est un enjeu phénoménal. Alors, j'ai su cerner et j'ai su mieux distribuer mon effort.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Gérard Poulet.
Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce deuxième enregistrement ?
L'unité. L'unité. Et comme je voulais qu'il y ait un style nouveau, je ne pouvais pas aborder ça au baroque, parce que le baroque est vraiment un art que je ne maîtrisais pas. Je ne voulais pas faire un deuxième ou un troisième enregistrement de Schering.
Qui les a enregistrés magistralement.
Qui les a enregistrés magistralement. Mais pas du tout d'une façon baroque.
Pourquoi ?
Restait quand même un peu romantique. Alors, c'était admirablement joué. Les accords étaient maîtrisés d'une façon formidable. Mais il n'y avait aucun baroque dedans. On ne peut plus jouer les sonates maintenant si on n'a pas le relent, dans le bon sens du terme, de cette musique qui a été conçue au XVIIIe siècle. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui soit authentique. Alors comme le totalement authentique, je ne pouvais pas le faire, parce que je n'ai pas la technique pour ça.
Il faut le violon aussi pour ça, il faut l'instrument pour violon. Ça.
Oui, et puis bon, il faut un certain style que bon, les baroqueux...
Bon, ça consacre une vie, bien sûr.
Ils jouent... alors là, pour le coup, il n'y a pas de mentonnière. Ils ont un archet spécial. Ça, je ne sais pas le faire. Alors, je me suis rapproché de ça et j'ai fait un espèce de moyen terme.
Que vous entendez comment aujourd'hui ? Comment est-ce que vous jugez de cet enregistrement ?
J'aime beaucoup et je signe de nouveau. Je suis heureux de l'avoir fait et je m'en félicite.
Faudrait pas réenregistrer une troisième fois ?
Oui, il y a quelques personnes qui m'ont dit faudrait le refaire. Faudrait le refaire. Mais à quoi bon ? Parce que de toute façon, je ferai pas mieux là maintenant. Je ferai pas mieux. Alors donc, je préfère au contraire aborder certaines œuvres, comme en musique de chambre, par exemple, que je n'ai pas eu l'occasion de faire, et ça m'intéresse plus aussi. Il faut avoir envie aussi. Si vous n'avez pas l'envie totale, à 100%, forcément, vous n'allez pas au bout de votre jeu. Il faut se dépasser soi-même. L'envie, c'est le moteur. Et quand j'ai cette envie-là, je suis heureux de l'avoir, c'est d'avoir faim. J'ai envie. Ah, c'est ça, c'est formidable. Alors là, à ce moment-là, je me mets au boulot, je me trompe, mais je reviens, je continue, je mets sur le métier, voilà. Et comme je vous dis, ma persévérance agit, je lâche pas.
Ces sonates et partitas sont devenues un enregistrement de référence. Certaines personnes m'ont dit qu'elles étaient frappées par le tempo. C'était délibéré de votre part ? C'est cette façon ?
Oh, c'est une recherche, oui, ouais. C'est une recherche. Et puis, les tempos lents ne me vont pas. Parce que je n'ai pas... je ne suis pas fort, moi. J'ai une musculature faible. Donc, si je contrains le tempo et si j'ai des tempos lents, à ce moment-là, je perds la sonorité. C'est un état d'équilibre. Si le son n'est pas bon, automatiquement, il n'y a plus de chair. S'il n'y a plus la chair, il n'y a plus l'interprétation, il n'y a plus rien. C'est un état d'équilibre. À certains tempos me vont bien. Si c'est trop vite, alors à ce moment-là, on n'est plus dans la musique. Trop, c'est trop, mais pas assez, ça ne va plus. Quand c'est trop lent, alors là, à ce moment-là, je me perds.
si j'ai bien suivi, je crois que la partition de vos sonates de Bach sont annotées, ou du moins vous avez les coups d'archet les doigtés de Schering lui-même.
Ah oui, mais j'ai...
Vous l'avez toujours.
Vous savez, forcément, j'ai forcément changé certaines choses parce que la main de Schering n'est pas la même que la mienne. Donc, je n'ai pas les longueurs de doigts, je n'ai pas la même longueur de doigts que lui. Donc, ce qui lui allait bien ne va pas forcément bien. Bon, fondamentalement, j'ai beaucoup de doigts de Schering, mais si je vous disais 40%, mais pas plus. J'ai quand même voulu, au départ, évidemment, totalement ressembler à Schering, mais qui dit ressemblance dit copie. Et si on est une copie, on n'est rien. Alors, si vous existez, c'est en tant qu'artiste à 100%. J'ai gardé forcément des choses essentielles de lui. Mais pour adapter certaines choses au mieux de ce que mes doigts acceptent et ont accepté, j'ai cherché encore plus loin pour trouver des choses qui me vont mieux à moi, alors que je n'écrirai pas forcément dans une édition qu'on me demanderait d'établir, parce qu'on dira, voilà, avec l'expérience, c'est formidable, vous allez nous donner les meilleurs doigtés. C'est pas vrai. Ça me va à moi, mais ça va pas forcément à l'ensemble des violonistes qui auront peut-être plus de facilité avec des doigtés plus classiques que les miens.
Pensez à avoir repris du baroque ou du mouvement baroque ou de l'esthétique baroque dans cet enregistrement. Qu'est-ce qui sonne baroque dans ces sonates et parties?
Ah ben c'est la vérité. Ça, le baroque pour moi c'est l'authenticité. J'adore par exemple écouter Vivaldi par des musiciens baroques. Même les ensembles hollandais, j'adore. Je les admire d'une façon extraordinaire et ça me donne une joie profonde. Et ça, je sais que je ne sais pas le faire. Mais il y a des musiciens qui sont... Alors, ils sont quelquefois critiqués par dire « Oh oui, mais enfin bon, c'est ça. Ce sont des musiciens qui sont... Ils voudraient être violonistes, mais ils ne savent pas jouer. Alors, ils se sont mis dans le baroque. » Alors ça, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Ce sont de grands artistes, ce sont de grands musiciens.
Est-ce que dans votre persévérance, il n'y a pas un moment où vous vous êtes posé la question de vous-même, vous embrasser cette esthétique-là?
Non, c'était pas pour moi, C'était pas ma vie, c'était pas mon destin.
Cette esthétique est pourtant très éloignée de Heifetz dont on parlait plus tôt.
Ah oui, je ne pense pas qu'Heifetz y ait pensé lui-même. À l'époque où il a vécu, il n'était pas du tout question de baroque. Et pourtant le baroque était encore avant. Mais il était totalement oublié. Le 19e siècle est passé par-dessus et a gommé tout ça. Il est une émanation du 19e siècle et il a fait sa carrière au XXe siècle, mais certainement le XIXe lui a permis d'être Yashar Heifetz.
Merci beaucoup, Gérard Poulet.
Merci beaucoup aussi.
Merci à vous. C'est avec cette gigue que se referme le cycle des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach que Gérard Poulet a enregistré pour le label Arion. Il joue sur un violon Galliano et il sera question de tous les violons qui sont passés entre ses mains demain dans le dernier volet de ses grands entretiens. Merci à toute l'équipe, Olivier Guérin à la réalisation, Sandrine Malon à l'enregistrement, Marie Le Peintre au mixage, Flora Sternadel et Christophe Dillis pour la préparation. Les références discographiques, la réécoute et le podcast sont disponibles sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.